Vous avez promis depuis déjà 15 jours ou 3 semaines quelques explications pour essayer d'éclairer l'évangile du 24e chapitre de Saint Matthieu. Le début, tout au moins, c'était une lecture de l'évangile que nous avions pour un certain samedi. Ce n'était pas hier, ce n'était pas le samedi d'avant, ça devait être encore le samedi d'avant, je pense. Et donc, ça fait tellement de temps que je suis obligé de vous relire l'évangile en entier, enfin, ce passage de l'évangile. Jésus sortant du temple allait. Ses disciples s'approchent pour lui montrer les bâtiments du temple. Il répond et leur dit, « Vous regardez tout cela, n'est-ce pas ? Amin, je vous le dis, il ne sera laissé ici, pierre sur pierre, qui ne sera détruite. » Il est assis sur le mont des Oliviers. Les disciples s'approchent de lui, à part, et disent, « Dis-nous quand ces choses seront. Quel sera le signe de ton avènement et d'un achèvement de l'ère ?» Jésus répond et leur dit, « Prenez garde que nul ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et ils diront, « Je suis le Christ », et ils en égareront beaucoup. Vous allez entendre guerre et rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin, car se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des famines et des séismes en divers lieux, tout cela commencement des douleurs. Alors, ils vous livreront à l'affliction, ils vous tueront, vous serez haïs par toutes les nations en raison de mon nom. Alors, beaucoup chuteront, les uns et les autres se livreront, ils se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se dresseront, ils en égareront beaucoup. L'iniquité se multipliant, l'amour, la charité de beaucoup se refroidira, mais qui durera jusqu'à la fin, lui sera sauvé. » Voilà un beau programme. Oui, vraiment, voilà un beau programme. Vous vous doutiez que j'allais vous dire ça. Le thème général, et l'évangile se continue, hein, il y a beaucoup d'autres versets, hein, et on trouve ce récit-là, ce dialogue-là, d'une manière un peu différente chez deux autres évangélistes, on appelle les synoptiques, chez Saint Matthieu, chez Saint Marc et chez Saint Matthieu, chez Saint Luc, chez Saint Luc et Saint Marc, celui-là c'est Saint Matthieu. Je ne vais pas comparer les trois, ce ne serait pas inintéressant de le faire, mais je me contente déjà, il y a de quoi, de celui que nous avons sous les yeux tout de suite. Le thème général, c'est, vous l'avez compris, la fin des temps. Dans cet évangile, il nous est annoncé que croire au Christ, c'est comprendre et accepter que le but de notre vie n'est pas la jouissance éphémère de ce monde. Ça, c'est le thème principal. Mais le but est bien au-delà de l'histoire, en dehors de l'histoire. C'est croire en Christ, c'est la certitude que le monde s'accomplira malgré tout, s'achèvera, c'est-à-dire sera perfectionné, sera sanctifié malgré tout, et non pas à cause de nos œuvres, à cause de ce que nous aurions fait pour l'édification du monde, mais par amour gratuit de Christ, un amour qu'il a exprimé d'une manière particulière sur la croix, en renonçant à tout à lui-même, par amour pour nous, en assumant les conséquences de notre condition humaine abîmée, malade, déchue par le péché, mais par amour pour nous, de manière à redonner à notre vie le sens éternel qu'il nous avait destiné. Donc les apôtres contemplent et sont en admiration devant le temple construit par Hérode et qui semble avoir été une des merveilles du monde. Je ne parle pas des sept merveilles du monde, non, mais une des merveilles de cette époque-là. Et c'est ça que le Seigneur le fermait. Ah, vous regardez tout ça, hein. C'est-à-dire vous admirez tout ça. Mais je vous dis, de tout ça, tout devra être détruit, tout aura une fin. C'est-à-dire que le Seigneur leur conseille de ne pas se laisser abuser, de ne pas se laisser leurrer par la solidité, l'immensité et la splendeur du temple, c'est-à-dire non seulement du temple de Jérusalem, mais de toutes les édifications humaines, de toutes les réussites, toutes les réalisations humaines. Et on peut dire autant pour nous, avec notre construction d'église plus modeste, et quelle qu'en soit la modestie, et même si on avait fait plus petit, ça aurait été la même chose. Pour toute chose que l'on construit, que l'homme fabrique, tout a une fin et ne peut pas durer éternellement. Le monde est voué à l'instabilité et au bouleversement, de toute manière. Ici, en ce qu'on appelle le bas monde, le monde dans le monde matériel, humain, psychique, dans lequel nous sommes, tout est éphémère. Mais notre espérance, elle est ailleurs. Notre demeure, elle est ailleurs. Notre demeure, elle est dans le royaume des cieux. Voilà le thème fondamental de tout cet évangile. Pour nous, si vous voulez en faire une application immédiate, parce que vous avez compris que, comme à toutes les époques d'ailleurs, mais d'une manière particulièrement vive, en ce moment où nous sommes confrontés à des difficultés, on dit une crise supplémentaire, mais à toutes les époques il y a eu des crises, donc ceci est valable tout le temps. C'est la recommandation, c'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne nouvelle, un beau programme, à ne pas nous laisser déstabiliser par la situation dans laquelle nous sommes, ou par les situations dans lesquelles nous sommes. Les choses humaines nous paraissent quelquefois sans solution, nous paraissent désespérées, ou en tout cas dangereuses, mais ne nous laissons pas abuser par cela. Rappelons-nous que tout cela est éphémère de toute manière, et que si cela tombe, si cela disparaît, il y a autre chose qui demeure et qui demeure éternellement. Et là, ayant fait cette recommandation, ayant attiré l'attention de ses disciples sur la vanité des choses de ce monde et de l'espérance à avoir sur les choses éternelles, le Seigneur passe le cédron, sort de Jérusalem directement par le temple, passe la vallée du cédron et monte sur le mont des Oliviers. Le fait que l'évangéliste le signale n'est pas fortuit, parce que c'est déjà sur le mont des Oliviers que le Christ, quelques jours plus tard, va de nouveau monter pour s'élever dans son ascension dans le royaume des cieux transformer sa présence visuelle, sa présence physique sur terre par une présence spirituelle. S'il était toujours présent physiquement, visiblement présent parmi nous, nous ne pourrions pas connaître la gloire de Dieu. Mais le fait que le Seigneur se soit dissimulé par son ascension au regard des apôtres et aux nôtres, fait que notre regard, par l'espérance, la vraie espérance, la vertu d'espérance, nous permet de voir, de percevoir et de participer à quelque chose de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que providentiellement, les apôtres, tout du moins comme le raconte l'évangéliste, les apôtres posent cette question-là, posent les questions suivantes au Christ alors qu'il monte sur le mont des Oliviers. C'est-à-dire que le Seigneur leur fait faire l'expérience même de quitter un monde agréable, beau, splendide, humainement parlant, qui est le temple, pour monter sur le mont des Oliviers, c'est-à-dire pour commencer l'ascension, non seulement la sienne, mais celle de ses disciples, jusque dans le royaume des cieux, pour changer de niveau de compréhension des choses et de niveau d'expérience. Et là, il dit, dis-nous quand ces choses arriveront. Quelles choses ? Ces choses, c'est d'une part la destruction du temple. Et là, c'est certainement pour les apôtres une vision horrible. Un juif à cette époque-là ne pouvait pas concevoir que le seul lieu où Dieu était adoré, le seul lieu où on pouvait rendre un culte et qui montrait toute la splendeur de l'histoire du peuple d'Israël, comment tout ça pouvait être détruit. Si on détruisait dans leur conception, si on détruisait le temple, c'est tout le monde qui disparaissait. C'est toutes les références. Et c'est ça que le Seigneur veut leur faire percevoir avant l'heure, si je peux dire. Cette prophétie-là sera réalisée une quarantaine d'années plus tard, quand en 70, les Romains, avec l'empereur Titus, dont beaucoup d'entre vous connaissent l'Arc de Triomphe, qui a été édifié à son honneur, en revenant justement de la prise de Jérusalem avec la splendide sculpture représentant les armées de triomphe de Titus qui revient à Rome avec les accessoires les plus sacrés du temple, notamment l'arche d'alliance et la mémora, c'est-à-dire le grand lustre à cette branche qui était la prophétie de la lumière divine qui devait éclairer le monde. À ce moment-là, s'accomplira historiquement la chute de Jérusalem. Mais ceci n'est encore qu'une prophétie, n'est encore qu'une attente de l'achèvement de l'ère, de la fin des temps. Mais cette fin des temps, cet achèvement de l'ère, si elle n'est pas appelée la fin du monde, mais l'achèvement de l'ère, de l'époque, si vous voulez, signifie que ce n'est pas une allusion à la fin de l'histoire de l'humanité, mais que c'est une manifestation glorieuse de la présence de la présence du Christ. C'est une manifestation, c'est une nouvelle parousie, une nouvelle présence vivante du Christ en nous. Et j'ai dit en nous, intentionnellement, dire pas simplement dans le monde, comme il est prédit, que le Seigneur viendra à la fin du monde, quand le monde cessera dans 10 minutes ou dans 3 milliards d'années. Personne ne peut savoir quand. Mais cette parousie doit arriver dans nos cœurs, car là est l'enjeu. C'est de nous, de notre cœur, de notre vie, à chacun de nous, qu'il est question ici. L'irruption glorieuse du Christ n'est pas prévue d'une manière impersonnelle, venant dans le monde comme n'importe quel personnage historique, mais c'est une irruption, une illumination du Christ dans nos vies personnelles. C'est ce qu'il dit quand il dit, et quand les apôtres demandent, quel est le signe de ton avènement ? Cet avènement, qui est le parachèvement, le perfectionnement du monde. Mais le perfectionnement du monde, j'insiste, n'est pas simplement la perfection du cosmos, mais du monde que chacun de nous représentons. Donc c'est ce perfectionnement-là auquel nous sommes appelés par la grâce de Dieu et pas par nos propres forces, car comme nous venons de le voir, tout ce que l'homme édifie, construit, même en lui-même, est voué à la cessation, à l'achèvement, à la destruction, pour laisser place à autre chose. Le Christ leur répond: prenez garde que nul ne vous égare. Une petite réflexion. Dans l'évangile, il dit: Jésus répond et leur dit. Ça semble être une répétition. Il répond, c'est qu'il dit. S'il dit, c'est qu'il répond à leur question. Mais non, il y a l'insistance dans la manière évangélique de s'exprimer. Cette insistance montre que Jésus leur parle, effectivement, mais il leur répond, il répond précisément à leurs questions. Et quand Dieu parle, or le Christ est Dieu, quand Dieu parle, il crée. Il se manifeste comme créateur, donc accomplit ce qu'il est en train de dire. Il leur dit: prenez garde que nul ne vous égare. Prenez garde. C'est-à-dire que la première recommandation que nous fait le Christ, qu'il fait à ses apôtres, à ses disciples et à nous-mêmes, c'est une nécessité d'ouvrir notre cœur à un discernement. Ne pas avaler les événements, ne pas laisser notre vie sans attention, mais de scruter avec intelligence spirituelle, à scruter le sens des choses. Là, par exemple, scrutons cet évangile et comprenons qu'il ne s'agit pas simplement d'une fin des temps historiques, mais qu'il y a autre chose, qu'il y a l'introduction dans un autre temps qui est le temps de l'éternité. Le discernement est la première chose que le Seigneur nous demande d'acquérir. Et on ne peut pas l'acquérir par soi-même, on ne peut l'acquérir que par communion à l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui ouvre notre intelligence spirituelle au discernement des choses, le discernement charismatique, le discernement qui n'est pas suivant notre logique et notre science philosophique, rationnelle et humaine, mais qui est une compréhension par osmose, je ne sais pas si c'est le terme, par connaturalité avec Dieu. Ce discernement reçu par l'Esprit-Saint nous fait sentir, nous fait deviner, comme des éponges, si vous voulez, une éponge qui reçoit un liquide, qui boit le liquide. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes comme des éponges qui buvons la présence de Dieu et qui buvons l'Esprit-Saint et pouvons, grâce à ça, adopter une souplesse, je parle de l'éponge, évidemment, adopter une souplesse et être utile pour quelque chose. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes appelés à recevoir l'Esprit Saint et à comprendre, à voir le monde autrement, donc à être des porteurs de vie. Que nul ne vous prenez garde, donc ayez du discernement pour que nul ne vous égare. Là encore, notre époque est en plein dans le sens, illustre à la perfection ce que le Seigneur nous, ce à quoi le Seigneur nous invite. On peut être égaré, et on va voir les détails après. On peut être égaré parce que si on se fie sans discernement à ce que nous voyons de nos yeux humains, ce que nous entendons, ce que nous apprenons, ce dont nous souffrons, tout est contradictoire. Vous pouvez voir, pour parler très concrètement, qu'aujourd'hui encore, nos informations sur quelque sujet que ce soit sont complètement contradictoires. Notre éducation à l'école, je suis désolé mes enfants, mais je suis obligé de vous le dire à vous aussi, que l'éducation qu'on nous donne est aussi contradictoire. On nous fait prendre pour du bien ce qui est mal, et pour du mal ce qui est bien. Les scandales que l'on révèle aujourd'hui, de viol par exemple, des uns et des autres, ça ne veut pas dire de tout le monde, mais de certaines autorités, non, remontent à plusieurs années, à une époque où on voulait nous faire croire qu'il était bien d'agir ainsi. Et on a gobé, beaucoup ont gobé, ont avalé ces informations-là. Dans les informations qui nous viennent au sujet du monde politique, au sujet du monde économique, au sujet de la situation sanitaire aujourd'hui, nous sommes en pleine contradiction. Nous constatons tous que nous sommes entourés de mensonges. Tout ce qui nous entoure n'est que mensonge. Si bien que quand certains disent la vérité, on ne sait plus si c'est eux qui disent la vérité ou si c'est les menteurs qui disent la vérité. Donc, ne nous laissons pas égarer par cela. Ayons du discernement. Cherchons à comprendre où est la vérité. C'est la technique du diable, car finalement, c'est de lui qu'il ne faut pas se laisser égarer. Par lui qu'il ne faut pas se laisser égarer, pardon. La technique du diable, c'est de créer le mensonge. Et toujours, quand vous voyez le mensonge, vous pouvez être sûr que c'est le diable qui est derrière. Beaucoup diront, car beaucoup viendront sous mon nom, ils diront « Je suis le Christ » et ils en égareront beaucoup. Quand le Seigneur dit « Beaucoup viendront sous mon nom », c'est-à-dire qui ne sont chrétiens aussi. Être sous le nom du Christ, c'est porter son nom, c'est-à-dire en être les représentants. Et parmi ceux même qui se prétendent à tort ou à raison, de bonne foi ou de mauvaise foi, être les représentants du Christ, parmi ceux-là, vous entendez tout aussi. Et y compris dans nos milieux ecclésiastiques, nous ne savons pas toujours où est la vérité et où est l'erreur. Nous entendons aussi des mensonges. Et finalement, il revient simplement à votre discernement de savoir si ce que je vous dis aujourd'hui est de la vérité ou du mensonge. Peut-être que je suis en train de vous mentir. Je ne le pense pas. Le seul critère que vous puissiez avoir, c'est de vous rendre compte ou non, si ce que je vous dis ou ce que d'autres disent, évidemment, je ne suis pas le centre du monde, si c'est conforme à l'Évangile ou pas. Et la conformité à l'Évangile ne tient pas de ce que l'on cite l'Évangile, mais de voir si c'est vraiment l'esprit même de l'Évangile. Donc je vous laisse la responsabilité de juger si ce que vous entendez aujourd'hui est dans le sens de l'Évangile ou pas. Tout ça pour dire que le discernement, il faut être attentif. Le discernement qui nous revient est de voir où est la vérité, qu'est-ce qui est conforme à la vérité. Car les uns diront, comme le prévient le Christ, « Je suis le Christ » et ils en égareront beaucoup. Des faux Christ, des personnes qui se prétendent être le Christ, c'est tous ceux qui, toutes les doctrines, si vous voulez, qui annoncent le salut du monde. Il y a un Christ qui annonce le salut du monde par l'ascension du monde jusque dans le royaume des cieux. Il y a un tas d'autres doctrines païennes, athées, matérialistes, qui annoncent aussi le salut du monde. Notre jeunesse à nous a été bercée par de l'illusion du salut marxiste. On voit aujourd'hui ce que ça a donné. Mais il y a d'autres qui prétendent amener le salut. Des religions extrême-orientales, par exemple, qui sont des sagesses, qui ont peut-être leur valeur dans un certain ordre de choses, mais qui n'amènent pas directement le salut. Ça peut amener une certaine pacification de la personne, mais pas le salut de la personne. Le salut par la science aussi, qui nous est annoncé, qui nous est promis par le monde ambiant, dans la philosophie ambiante, sont des leurres. C'est ça qui est visé par le Christ. Qu'il y en a qui se prendront pour des faux Christ, qui diront je suis le Christ. Vous avez un tas d'officines, vous avez un tas d'associations qui prétendent amener le salut par la compréhension du monde, par une initiation, qui sont aussi des représentants du faux Christ, car ils ne débouchent pas sur ce que le Christ est venu nous annoncer, nous apporter, l'introduction dans un autre monde réel qu'on appelle le royaume des cieux. Le but du Christ n'est pas dans ce discours, dans ce soyons attentifs, le but n'est pas de donner une chronologie des événements à venir, mais de mettre les hommes en disposition intérieure, en attente, en aspiration, en soif de la finalité des temps. C'est pas de nous dire voilà, il va arriver ça et ça physiquement, historiquement, mais de nous montrer la vanité de toutes les choses de ce monde pour aspirer à juste une chose qui est de la valeur, et quand je dis valeur, je devrais mettre un grand V et des guillemets, c'est le royaume des cieux, la vie divine. Euh, vous allez entendre guerre et rumeur de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas. Je n'ai pas besoin de vous faire de description, vous l'entendez tous les jours. Mais ce n'est pas nouveau, ça fait 2000 ans qu'on l'entend. À toutes les époques, on l'a entendu. À chaque fois, ça paraît de plus en plus crucial, mais il y a toujours un après, et il y a toujours des nouveautés. On est capable d'inventer beaucoup de choses dans ce domaine-là. Mais pourquoi ? Pourquoi ces rumeurs ? Justement, ces rumeurs-là peuvent servir à, d'une part, à affermir notre foi en nous apprenant à ne pas avoir peur, mais à être ancré solidement sur le seul message qui nous est donné, c'est-à-dire le seul message solide, pardon, qui nous est donné, c'est-à-dire l'Évangile, et nous accrocher aussi à la personne même du Christ qui peut nous faire passer au-delà de tout cela sans dommage. Sans dommage, je ne prends pas le martyr pour un dommage, je parle de sans dommage, c'est-à-dire sans perte de notre âme, sans perte de ce royaume qui nous est promis et qui nous est accordé dès aujourd'hui. Ne vous alarmez pas, voyez, c'est-à-dire constatez. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Regardez, mais voyez, ça veut dire regardez et utilisez cette annonce-là. Que ces bruits-là vous servent à quelque chose, vous servent, prenez-en la leçon. C'est-à-dire ne vous enfermez pas dans ce monde bassement historique et matériel. Ne vous alarmez pas, ça veut dire, il y a tout un ton paternel de confiance que le Seigneur dit. Allez, n'ayez pas peur. Tout ça, n'ayez pas peur de tout ça. Il y a un ton de confiance. Un ton, on sent l'amour du Christ qui se met à notre place, qui porte avec nous toutes nos difficultés humaines, toute l'instabilité de ce monde dans lequel nous baignons tous. N'entrez surtout pas dans la terreur. L'Évangile, c'est espérer imperturbablement. C'est espérer contre toutes les apparences. Tout paraît tomber, tout paraît fuir, tout paraît se déliter, tout paraît s'obscurcir, tout paraît se ternir ou se salir. Mais n'ayez pas peur de ça. C'est moi, par ailleurs, il dit, j'ai vaincu le monde. Donc plutôt que d'avoir peur des événements à venir, parce qu'il y a toute une littérature qu'on appelle apocalyptique, une manière terrible de présenter les événements à venir, avec les étoiles qui tombent, la lune qui obscurcit ses rayons, le soleil qui obscurcit ses rayons, etc. Tout ça, c'est une manière de parler pour montrer comment tout ça, tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ça, ce n'est rien, que tout va être bouleversé, mais qu'il va y avoir une autre lumière, un autre monde. Donc ça ne peut s'exprimer qu'à travers des notions comme ça, terrifiantes, qui montrent en même temps, qui ont la volonté de montrer la force, la puissance de Dieu, qui est capable de bouleverser le monde entier. Mais de cela, ayons confiance, malgré ces visions-là, ces expériences-là, ayons confiance, malgré toutes les apparences, que le Seigneur vint le monde qu'il nous apporte sa gloire. Et souvent, puisque le Christ a vécu avant nous, ou pour nous, ce que nous vivons, nous aussi, souvent, c'est jusqu'à ce qu'on ferme les yeux définitivement par notre dernier sommeil que l'on est appelé à vivre cet acte de foi total, sans voir le résultat, mais à garder malgré tout l'espérance totale. Il faut que cela arrive, continue-t-il. Il faut que cela arrive. Ah, comment vous dire ? Le « il faut » signifie que c'est dans l'ordre des choses maintenant, puisque le monde est déchu, puisque nous sommes malades, ces choses-là doivent arriver. Il faut que ça arrive car c'est maintenant dans l'ordre des choses. C'est pas, le Seigneur ne veut pas notre mal. Et puisque le mal est arrivé, il nous faut assumer ce mal, c'est-à-dire le vivre, mais le transformer par la vertu d'espérance, le transformer en bien, c'est-à-dire à travers ce mal, apprendre à se détacher l'expérience du monde déchu pour s'élever dans l'autre monde par l'amour que l'on reçoit du Christ, par l'amour que l'on donne au Christ, et que par l'amour du Christ ainsi reçu, on apprenne à aimer les autres. Il faut que cela arrive pour une autre raison, c'est-à-dire que nous sommes tellement ancrés dans notre monde déchu, notre monde matériel, si vous voulez, matériel au sens humain aujourd'hui, on est tellement ancrés que s'il n'y a pas ce bouleversement, s'il n'y a pas ce déchirement de devoir quitter toutes ces choses qui sont dites, on n'apprendra pas à aspirer à autre chose. Donc il y a une pédagogie aussi derrière cela, une pédagogie divine. On est confronté à ces difficultés, à cette tentation de peur ou de terreur. On est confronté à cela pour apprendre à ne pas nous attacher définitivement, mais à aspirer à autre chose. Nous détacher de ce qui est éphémère pour aspirer à ce qui est éternel. Tout cela, commencement des douleurs. Là aussi, c'est un beau programme. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas tellement que les douleurs ne fassent plaisir. C'est pas un bon cadeau que le Seigneur nous fait. À nous faire souffrir. Je veux dire que Dieu ne prend pas plaisir à nous faire souffrir. C'est ça que je veux dire. Il y aura des famines et des séismes en divers lieux, tout cela, commencement des douleurs. Cette expression, commencement des douleurs, fait allusion au premier chapitre de la Genèse, quand, après avoir péché, l'homme et la femme comparaissent devant Dieu, et Dieu, pour leur salut, disent que maintenant la femme va enfanter dans la douleur. Pour leur salut, une fois de plus, ce n'est pas parce que Dieu veut punir la femme, donc l'homme, par la douleur. Mais la douleur, cette phrase de la Genèse ne prend tout son sens que quand on lit aussi plus tard l'évangile qui doit venir plus tard comme aboutissement, comme parachèvement des choses. Le Saint Jean dans son évangile dit que lorsque la femme souffre pour l'accouchement, c'est le commencement des douleurs, mais quand l'enfant est né, quand la joie l'a remplie parce qu'elle a donné la vie à un homme de plus. Et l'accouchement douloureux dont il est question dans la Genèse à propos d'Ève n'est que l'image, l'icône, si vous voulez, d'un autre accouchement qui doit avoir lieu dans la douleur, qui fasse arriver, qui donne naissance à un homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est l'annonce du Christ. C'est lui qui est l'homme nouveau. C'est lui qui peut apporter la joie. Donc la souffrance dont il est question là n'est qu'une image, n'est qu'un symbole, n'est qu'une icône de la joie qui est la nôtre de pouvoir devenir des hommes nouveaux en étant un avec l'homme qui est annoncé, le Fils de l'homme qui est annoncé, le Fils de la Vierge Marie qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Et les douleurs de l'enfantement sont des douleurs annonciatrices de la joie qu'un homme vienne dans le monde. Et un homme, j'allais dire, avec un grand H, le Christ. Cet accouchement, avec ses douleurs, c'est aussi l'expérience de chacun d'entre nous, de chaque homme, qui par notre conversion, par le support de nos afflictions, par la lutte contre nos passions, notre lutte ascétique aussi. Tout cela, ce sont des douleurs d'enfantement, mais qui sont annonciatrices d'une joie autrement plus grande, de la communion avec le Christ, en Christ, les uns avec les autres. Ce sont des souffrances, des douleurs qui annoncent l'irruption de la vie du Christ en nous. C'est nous qui sommes le monde dans lequel vit le Christ. Alors, continue l'Évangile, ils vous livreront, et j'aurai bientôt fini, ils vous livreront à l'affliction, ils vous tueront et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. Vous pouvez remarquer qu'il y avait un reportage cette semaine, je ne sais où, qui disait qu'une constatation une constatation dite objective qui montrait que les chrétiens étaient la religion aujourd'hui la plus persécutée au monde. Vous avez vu ça? Ça en dit long, si vous voulez. Voilà l'illustration de ce que nous sommes en train de lire. Alors, ils vous livreront à l'affliction, ils vous tueront et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. Alors, beaucoup chuteront, les uns et les autres se livreront, ils se haïront les uns les autres. C'est encore quelque chose, indépendamment du phénomène historique auquel on assiste de génération en génération, mais vous pouvez constater que cette guerre, ces querelles, n'ont pas lieu simplement dans le monde politique international, c'est-à-dire entre les nations, mais le Seigneur est en train là de nous dire, ils vous livreront qui ? C'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à l'intérieur de nos propres institutions, c'est à l'intérieur de notre propre Église qu'il y a ces trahisons. C'est à chaque crise ecclésiastique auquel on assiste depuis 2000 ans, on voit les êtres, les personnes qui sont théoriquement dans la même Église, et qui le sont objectivement par certains côtés, qui s'entre-déchirent, qui se dévorent, qui cherchent à se détruire mutuellement pour montrer son bon droit. C'est toujours ce que l'on voit, des querelles, des diatribes, des calomnies, des mots déplacés, des insultes, des pamphlets, etc. Tout ça, c'est notre lot. Nous sommes prévenus de cela, mais cela n'est que le commencement des douleurs Il faut que cela arrive pour que nous ayons la joie, nous participions à la joie de l'homme nouveau. Beaucoup de faux prophètes se dresseront, c'est encore à l'intérieur même de notre institution, si je peux l'appeler comme ça. Chacun se dit prophète, chacun dit où est la vérité. Et je devrais me taire parce que je suis en train d'en faire autant. Et ils en égareront beaucoup. J'espère ne pas vous égarer. L'iniquité se multipliant, l'amour de beaucoup se refroidira. Pourquoi ? Parce que si l'amour, dans ces querelles annoncées, dans ces séismes qui ébranlent la communion de nos personnes, c'est l'amour fraternel qui s'affaiblit. Et si l'amour fraternel s'affaiblit, c'est parce que l'amour que l'on prétend avoir pour le Christ s'affaiblit aussi. Si on prétend aimer le Christ et qu'on n'aime pas son frère, nous sommes des menteurs, il dit par ailleurs. Donc, si nous n'aimons plus en vérité le Christ, notre âme ne peut plus recevoir l'amour du Christ. Et si on ne reçoit plus l'amour du Christ, on ne peut plus répercuter cet amour chez les autres. C'est un cercle vicieux. L'iniquité se multipliant, c'est-à-dire les troubles se multipliant, l'amour se refroidira. Mais qui durera jusqu'à la fin, lui sera sauvé. L'évangile ne se termine pas là, selon saint Matthieu, il y a encore beaucoup de versets après, mais l'évangile, le choix fait pour l'autre samedi, s'arrêter là, finit encore sur cette même affirmation, ce même encouragement. N'ayez pas peur, durez jusqu'à la fin. Vous voyez, c'est toujours la constance dans les épreuves qui nous est demandée. Tenir dans la vraie foi, tenir dans la relation avec le Christ et ne pas avoir peur des événements qui arrivent. Saint Paul aux Corinthiens dit, parallèlement à cela, c'est pourquoi nous ne faiblissons pas. C'est pourquoi, c'est-à-dire à cause de la présence du Christ en nous. Oui, notre homme extérieur se détruit. Il est en train de résumer tout ce que le Seigneur nous a annoncé dans son discours et que j'ai essayé de vous expliquer. Mais celui qui est à l'intérieur se renouvelle de jour. Oui, notre homme extérieur se détruit, mais l'homme qui est à l'intérieur de soi-même se renouvelle de jour en jour. Car le fardeau éphémère et léger de la tribulation nous prépare quelque chose qui dépasse tout ce que nous pourrions concevoir de plus haut. Un poids éternel de gloire. Rendez-vous compte, un poids éternel de gloire. L'expression est forte. Nous fixons nos regards, en effet, non pas sur les choses visibles, sur le monde tel qu'on peut le voir avec nos sens, avec nos organes, mais il porte sur les choses invisibles, car les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, pour résumer, ne lisons pas cet évangile, ce qui suit, comme les signes précurseurs de la fin, de la cessation du temps, car à chaque époque on retrouve les mêmes signes, mais lisons l'histoire de ce monde, lisons ce qui nous entoure, comme l'irruption de la parousie qui est proposée à chaque personne. C'est en ce moment même qu'à l'extérieur de nous-mêmes, l'histoire nous le montre, mais qu'à l'intérieur de nous, il y a cette lutte, ces déchirements, ces oppositions, ces querelles à l'intérieur de nos personnes, qui est une chose nécessaire, une lutte nécessaire, lutte à laquelle préside celui qui a déjà vaincu le monde, c'est-à-dire le Christ, de manière à faire à ce que lui prenne possession de nos âmes et fasse de nous d'autres Christ qui ne se présentent pas au monde comme étant le Christ, mais qui soient les porteurs, qui soient Christophores, qui soient porteurs de la vie du Christ dans le monde. Et ceci, je ne l'ai pas souligné au moment même, parce qu'on ne peut pas tout dire, hein, mais ceci amène un témoignage, un martyr, pas simplement dans le sens d'un martyr douloureux ou sanglant, mais un témoignage. Ceux qui durent jusqu'à la fin sont sauvés parce que eux-mêmes représentent le Christ, représentent la vie de Dieu dans le monde, et c'est eux qui sont les témoins de cette présence, et c'est ainsi que la présence, la vie de Dieu, la gloire de Dieu peut se manifester parmi les hommes. Et pour conclure, pour faire le lien avec ce que nous disions pendant la liturgie, ça, c'est les 5 talents que le Seigneur nous a donnés. Ces talents-là, il ne faut pas les enfouir simplement pour nous réjouir d'être soi-disant dans la vérité, dans une belle église, avec une belle liturgie, et toutes choses qui sont réelles. Mais ce sont des talents, hein, des dons multiples que chacun de nous reçoit et dont on doit faire fructifier pour en témoigner, non pas aller le proclamer, comme je suis en train de le faire tout de suite, verbalement, vous voulez, ni en se présentant comme des exemples, mais pour manifester par notre constance, manifester la sûreté que nous avons d'être dans les mains de Dieu et de témoigner, de montrer ainsi Dieu au monde. Thank you.